Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieré et moi, l'histoire de Rodica Negroyou, l'empoisonneuse de Max Séville. Un document de Younou Teyanou, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
Rodica Negroyou. Voilà une femme qui savait ce qu'elle voulait dans la vie. Quitter sa Roumanie communiste, devenir française, réussir. Et pour ça, elle avait quelques atouts. Un accent chantant, une crinière flamboyante et un sacré bagou. Les hommes, elle leur tournait la tête. L'un s'est retrouvé totalement surendetté pour un manteau de vison. Trois sont morts subitement d'une crise cardiaque. Les policiers, les voisins, le juge, les témoins, tous ceux qui l'ont bloqué dans son ascension, Rodica Negroyou les a harcelés, poursuivis. Dans le box, elle criait encore à l'injustice. C'est pourtant bien elle qui achetait des barbituriques dans une pharmacie de Nancy. Vendeuvre, dans la banlieue de Nancy. Pendant l'hiver, la température descend bien en dessous de zéro. Ce 14 janvier 90, Raymond Jacquetel déblaye lui-même la neige de son jardin à 82 ans. Quand tout à coup, il ressent comme un étau dans la poitrine. Les pompiers le transportent en urgence à l'hôpital central. Raymond a fait un infarctus massif. Il meurt vers 20h30.
André Lorrain, voisin de Raymond Jacquetel.
C'était un heureux retraité. C'était un homme de qualité, un homme qui vieillissait bien. Vous voyez ce que ça veut dire? Il vieillissait bien.
Raymond Jacquetel est enterré au cimetière du Sud, aux côtés de sa femme.
Avec mon épouse, on est allé aux obsèques. Parce que je vous dis que c'était quelqu'un de sympathique. Ça nous faisait un peu mal que de le voir partir. Mais on n'en savait pas plus.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
Trois jours après le décès de M. Jacquetel, une personne appelle anonymement le commissariat de Vendeuvre et prétend qu'une femme est restée dans les lieux du domicile, alors que M. Jacquetel était veuf, on ne lui connaissait pas de relations féminines, qui précise aussi que cette personne peut ne pas être étrangère à la mort de M. Jacquetel, étant donné qu'une somme de 700 000 francs avait été convertie en bon anonyme du Trésor. On identifie la personne. Cette femme s'appelle Madame Negroyou Rodica, épouse et lui. Nous allons vérifier chez le notaire, voir dans quelles conditions cette femme peut occuper la maison. Et donc, on s'aperçoit que, ben, effectivement, M. Jacquetel a vendu sa maison à cette personne en viager. Ce qui nous intrigue un peu, c'est que M. Jacquetel a vendu sa maison en viager seulement 2 mois avant son décès. Donc, c'est intriguant. Et puis, ces histoires de bons du Trésor, la personne qui nous informe semble bien avisée. Donc, bon, ça mérite quand même qu'on s'intéresse à faire une enquête plus approfondie.
Comme toujours, les policiers commencent par une enquête de voisinage.
Les voisins ne connaissent pas cette personne. Ou certains l'ont vue furtivement, savent qu'elle venait, etc. Mais la prenaient plus ou moins pour une femme qui venait faire du ménage ou autre. Et du moment où cette femme est arrivée, M. Jacquetel n'avait plus beaucoup de contact avec ses voisins.
Sans la connaître franchement, les voisins ont remarqué Rodica Negroyou. Elle avait une assurance étonnante pour une aide à domicile.
André Lorrain, voisin de Raymond Jacquetel.
Elle était assez volubile. Ce qu'elle disait, bon, il semble qu'elle était tout à fait sûre de ce qu'elle annonçait. D'après, pour le peu que j'ai eu à parler avec elle, hein, parce que moi, je n'avais pas, si vous voulez, spécialement avoir de contact avec elle. Vous savez, quand une personne vous répond, vous coupe déjà dans votre conversation, Ça prouve déjà. Puis alors la façon, le ton, hein, déjà c'est significatif. C'était un ton de personne autoritaire, indiscutablement, qui savait ce qu'elle voulait.
Raymond Jacquetel n'a pas d'enfant. Mais quelques années plus tôt, il s'est pris d'affection pour Claude, un gamin de l'assistance publique dont ses voisins s'occupaient. Et en vieillissant, il a décidé d'en faire son héritier. Mais 2 ans avant sa mort, leur relation a changé quand Raymond a rencontré Rudy Canet-Grouillou.
Claude, héritier de Raymond Jacquetel.
Cette dame est arrivée peut-être au bon moment. Au bon moment où il avait besoin de soins, de présence, d'affection peut-être, je ne sais pas. Et donc elle est arrivée au bon moment. Quand je communiquais avec lui, c'était des fois très bien. Il était très content de mon appel, il était très content de mes éventuelles visites. Et c'était le monsieur Jacquetel que je connaissais. Et puis par moments, je le sentais réticent, je sentais qu'il n'osait pas parler, je sentais qu'il me disait des phrases toutes faites, et je sentais, je ne sais pas si ça se sent ces choses-là, qu'il y avait quelqu'un à côté de lui. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui lui dictait, qui lui expliquait ce qu'il fallait répondre. Le ton n'était plus le même. Je suis désolé, Claude, mais je suis invité ce week-end, je ne pourrai pas te recevoir. Donc là, ça m'a paru étonnant de sa part. Et j'ai dit, je vais m'en assurer. Et j'ai décidé donc d'aller sur place. Je suis passé devant chez lui, à l'heure où normalement il n'aurait pas dû être là. Et je l'ai vu dans le jardin, en train de bricoler tranquillement. Donc j'ai compris qu'il m'avait menti et qu'il ne souhaitait pas me recevoir. J'ai contacté son notaire pour lui demander ce qui se passait, parce que ça m'avait paru étonnant. Et le notaire m'a fait comprendre que la situation avait évolué et que... Il m'avait sorti au téléphone, il m'avait dit, vous savez, loin des yeux, loin du cœur.
Claude comprend qu'il n'héritera pas de la maison. Quant aux 750 000 francs, ces 115 000 euros d'économies convertis en bons du trésor, il reste un mystère. La somme peut être encaissée au guichet par le porteur des bons, quel qu'il soit, mais Claude ne les a pas. Raymond Jacquetel ne lui a donné que les numéros de série.
Monsieur Jacquetel lui avait dit qu'il avait caché ses bons sous l'escalier qui descend à la cave, etc. On a fait des recherches par la suite, mais bon, on n'a pas retrouvé trace de ses bons.
Mais curieusement, quelques-uns de ses bons ont refait surface le jour de l'enterrement de Raymond Jacquetel. Un homme s'est présenté au guichet de la Poste Saint-Jean pour encaisser l'argent.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
On apprend que 3 de ces bons ont tenté d'être écoulés. Malheureusement, la personne qui s'est présentée, un homme d'une cinquantaine, 50-60 ans, lorsqu'on lui a demandé son identité, car s'agissant de bons anonymes domiciliés, il faut donner son adresse, son nom, son prénom, enfin une pièce d'identité. Et donc à ce moment-là, la personne est repartie en disant « je vais réfléchir, je reviendrai ».
Les policiers soupçonnent Rudy Canet-Grouillou. Elle aurait pu trouver les bons dans la maison et demander à l'un de ses amis de les encaisser. Ils convoquent donc au commissariat plusieurs de ses relations, ainsi que le fonctionnaire de la poste. Celui-ci reconnaît tout de suite le numéro 3. Le numéro 3, c'est Roger, le compagnon de Rudy Canet. Il nie tout, bien sûr, il n'a jamais tenté d'encaisser les bons du trésor. Mais les policiers n'en croient rien. Et leurs soupçons contre Rudy Canet-Grouillou sont encore renforcés quand ils rencontrent Madame Dieudonné, la voisine d'en face de Raymond Jacquetel. Quelques jours avant de mourir, il lui avait fait des confidences.
André Lorrain, voisin de Raymond Jacquetel.
Monsieur Jacquetel, un jour, est venu la voir, je crois. Et puis, il a dit à la grand-mère, qui hélas est décédée maintenant, elle me donne des médicaments qui ne sont pas les miens, elle va me faire crever. Moi, je vous dis ça comme on me l'a dit.
Je ne sais pas ce qu'elle fait et je ne sais pas ce qu'elle me donne. Je suis crevée. Ce sont les mots que la voisine répète aux policiers.
Une maison vendue en viager. Des bons du trésor qui disparaissent, des bruits qui courent. Le procureur de Nancy décide de clarifier les choses. Il ouvre une information judiciaire pour recherche des causes de la mort. Et 10 jours après l'enterrement, le juge d'instruction ordonne l'exhumation du corps de Raymond Jacquetel.
L'exhumation a lieu, l'autopsie a lieu, des prélèvements sont effectués.
Les analyses sont confiées au laboratoire de l'Institut de médecine légale de Strasbourg.
Professeur Henri Coudane, expert en médecine légale.
On met en évidence, au point de vue toxicologique, deux types de produits qui sont d'une part un dérivé de la digoxine, de la digitaline, donc de la digoxine, et d'autre part du phénobarbital. Voilà, donc l'affaire est lancée. La digoxine, c'est un médicament à visée cardiaque. C'est un médicament qui est un médicament dangereux, puisque ce qu'on appelle la dose thérapeutique n'est pas loin de la dose toxique. Donc il faut faire attention.
Quant au phénobarbital, c'est un barbiturique qui agit en ralentissant l'activité du cerveau. Raymond Jacquetel a dans le sang une dose 3 fois supérieure à la prescription habituelle. Les experts examinent son dossier médical à la recherche des ordonnances de ces médicaments.
Alors là, problème. On ne trouve aucune prescription médicale ou aucune pathologie qu'aurait pu présenter M. Jacquetel à l'analyse de ces dossiers médicaux qui pouvait expliquer la prescription soit d'un médicament contenant du phénobarbital, soit de la digitaline, donc de la digoxine. On ne trouve rien. Or, l'analyse toxicologique semblait être formelle, on en trouve dans le cadavre de M. Jacquetel.
Pour tenter de savoir d'où viennent les boîtes, les policiers n'ont plus qu'une chose à faire.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
Nous allons faire des recherches auprès des pharmacies de Nancy, la région, et nous découvrons effectivement que du phénobarbital sous la forme de Gardénal a été vendu à justement Madame Négroyeux, une pharmacie située au centre commercial Boulevard Lobo.
La boîte de phénobarbital a été délivrée fin août 1990.
Monsieur Jacquetel a fait un premier malaise au mois d'octobre qui a été attribué finalement à un problème cardiaque et il le refera un malaise le 14 décembre qui lui sera fatal.
Jean-Paul Hartmann, vous êtes juge d'instruction à Nancy à l'époque et à ce moment-là, on parle beaucoup de digoxine dans votre juridiction.
Vous faites référence à l'affaire Weber qui effectivement était une affaire qui a été instruite à Nancy et qui était aussi une procédure criminelle à l'encontre d'une femme. Et effectivement, dans cette affaire, il y avait aussi de la digoxine, mais je crois qu'il n'y a pas de rapport du tout entre les deux affaires.
Mais est-ce que c'est parce qu'à ce contexte-là que vous imaginez tout de suite que Rodica Négroyou a empoisonné Raymond Jacquetel?
Pas du tout. C'est évidemment avec les éléments de la procédure et de l'enquête que l'on peut effectivement soupçonner avec d'autres éléments de contexte donc qu'il a pu y avoir une origine criminelle dans le décès de Jacquetel. Donc on sort de la procédure, d'une procédure de recherche des causes de la mort pour entrer dans une procédure de nature criminelle.
Quels étaient les liens entre Rodica Négroyou et Raymond Jacquetel?
Alors, ils n'ont certes aucun lien de famille, ils n'ont pas non plus d'autres liens de nature juridique, si l'on peut dire, ni familial, ni professionnel.
Ils ont des relations intimes, ils sont amants?
Non, pas du tout. C'est des relations purement d'une personne qui recherche à acquérir une maison, et puis d'une autre personne qui éventuellement accepterait de vendre sa maison en viager.
Que savez-vous de cette femme quand vous ouvrez votre instruction?
Au moment de l'ouverture d'information, on sait que Ronica Desgroyeux est âgée de 51 ans, qu'elle a un fils qui fait des études, qui a un peu plus de 20 ans, qu'elle habite dans une maison à Maxéville, et qu'elle est d'origine roumaine, et qu'elle est arrivée en France dans l'année 85. Elle travaille dans un établissement de soins psychiatriques. Elle s'est mariée avec monsieur et lui. Et on va apprendre que les circonstances du décès de monsieur et lui présentent un caractère troublant. Et c'est pour ça que donc, des investigations vont être faites à ce niveau-là et vont déboucher ensuite sur une ouverture de recherche des causes du décès.
Gérard et lui, 1920-1988. Une deuxième mort suspecte dans l'entourage de Rodica Negroyou.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
Madame Negroyou a fait la connaissance de monsieur et lui alors qu'elle habitait rue Émile Bertin.
Francine et lui, sœur de Gérard et lui.
Elle a eu un studio au-dessus de chez ma sœur. Et mon frère, qui habitait Custine, il avait des œufs frais, du lait frais. Il en amenait à ma sœur. Elle l'a rencontré dans les escaliers. Et petit à petit, elle l'a attiré, quoi.
Madeleine et lui, belle-sœur de Gérard et lui.
Quand il l'a vue comme ça, il dit à sa sœur, oh, c'est une belle poulette. Bon, c'était une femme qui s'arrangeait, qui était pas mal physiquement quand même, qui avait des grands cheveux blonds, etc. Donc, elle lui avait tapé dans l'œil. Excusez-moi l'expression.
Gérard a 65 ans, c'est un retraité de la sidérurgie. Il habite Custine, à 20 km de Nancy.
Donc lui, après, il a emmené à Custine. Ils ont dû concrétiser. Je ne vais pas faire de suppositions, mais enfin, ça paraît logique. Et ils ont décidé de s'épouser.
Le mariage de Rodica et Gérard a lieu à Nancy le 7 décembre 85, à peine plus d'un mois après leur rencontre.
Personne n'était prévenu. Et au moment du mariage, le maire a posé la question « Vous êtes bien sûr de vouloir vous marier, c'est pas un mariage blanc ?» Alors, il a paru être vexé dans son orgueil d'homme et il lui a dit « Oh, mais non, je suis capable d'honorer ma femme. »
Il aurait fallu que ce soit une femme de son âge. Ou encore même 2-3 ans de différence, mais pas 19. Ils ont été se marier. Après, ils sont sortis de la mairie. Elle est partie avec son fils. Et puis lui, il est parti avec ma sœur à Nancy. C'est pour ça que pour moi, c'est un mariage blanc.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
On s'aperçoit que le mariage et lui est quelque chose d'un petit peu bizarre, étant donné que madame et lui ne vit pas chez monsieur et lui à Custine. Madame et lui a un fils et elle demeure à Nancy. Elle travaille d'ailleurs dans des établissements de soins et elle prétexte pour cela en fait le fait d'avoir des permanences à monter et d'être sur place, c'est plus pratique pour elle.
Et elle, quand il touchait sa retraite, elle venait prélever la retraite. Elle lui achetait du vin et puis du pain. Comme il était végétarien, il ne mangeait que des légumes, quoi. Alors, elle lui disait de se débrouiller avec ça, quoi. Elle lui achetait son pain et puis son vin, puis elle repartait.
Après le mariage, monsieur et lui se montrent très généreux, puisqu'apparemment, il offre une chambre au fils de madame Negroyou, et il offre à madame Negroyou un manteau de vison, acheté à Nancy, pour un montant de 14 500 francs.
On a eu des nouvelles à partir des soirs du manteau. C'était un manteau de vison. Madame n'avait pas de goût très modeste, mais bon. Mes belles-sœurs et moi, nous sommes allés voir le fourreur et nous lui avons dit, il n'a pas assez sur sa retraite. Est-ce que vous pouvez étaler le paiement sur plus longtemps? Le fourreur a dit non, c'est pas possible.
On a essayé de lui reprendre pour demander au fourreur s'il voulait bien le reprendre. Alors lui, il a dit s'il est en bon état, on veut bien. Mais elle l'avait déjà revendu.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à Rodica Negroyou, l'empoisonneuse de Maxéville. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.